BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Bienvenue à tous, les marchés en direct jusqu'à 18h. On avance ensemble au rythme des indices qui ont basculé dans le rouge là, depuis la mi-journée sur les actualités iraniennes. Mais d'abord, l'ouverture à Wall Street. Et oui, c'est la cloche qui retentit là-bas. Vous la vivez tous les jours en direct. Cette ouverture des marchés américains, la bête s'éveille. C'est New York qui est en train d'ouvrir. La cloche qui retentit, c'est son premier rugissement. Il est là, John Plassard, pour Cité Gestion. Bonjour John, ravi de vous retrouver.
Bonjour cher Guillaume, bonjour Antoine.
Il est là aussi effectivement Antoine Larigauderie en fil rouge. Rebonjour Antoine.
Bonjour Guillaume, bonjour John.
Fil rouge de l'émission, mais de l'antenne aussi ce matin, 11h midi, tout pour investir, d'ores et déjà en ligne et en replay.
Oui, avec une grande question, qu'est-ce qu'une bonne gestion sans stratégie? Si on n'a pas de stratégie, il n'y a rien, et même les meilleurs produits peuvent devenir des boulets au pied. Et effectivement, c'est l'arc d'ogive hein, de vos investissements. On en a parlé beaucoup avec Marion Chapelle-Massot, hein, de la société De Carion. C'est à retrouver, évidemment, en replay, en podcast, tout le week-end, bien sûr.
On regardera Nvidia, évidemment, dans un instant, qui est en train d'ouvrir aussi. Et puis alors, il n'y a pas qu'Nvidia, et comme on va beaucoup parler de tech, de SpaceX aussi, bien sûr, qui a déposé ce dossier d'introduction. On a choisi d'ouvrir sur autre chose ensemble, John, sur les consommateurs. Comment vont les Américains? Walmart, c'est un vrai baromètre de la consommation. Walmart, $1 de course alimentaire sur 5 est dépensé chez Walmart aux États-Unis. C'est colossal. Eh bien, Walmart vient de publier ses résultats.
Bah, écoutez, les résultats sont solides. Hein. On a une hausse de 4,1% des ventes comparables aux États-Unis. Vous savez que Walmart, c'est quasiment seulement aux États-Unis. Et puis, une progression assez spectaculaire de 26% du e-commerce. Mais attention, et ça explique peut-être pourquoi le titre est en baisse à l'ouverture, vous avez un groupe qui confirme une tendance qui est très importante. Les consommateurs américains cherchent de plus en plus les produits alimentaires les moins chers et les promotions. Donc, on voit aujourd'hui que cette fameuse inflation dont on parle depuis plusieurs mois, ben elle met la pression sur le pouvoir d'achat américain. Et il faut savoir que Walmart, c'est le véritable thermomètre du consommateur américain. Ça touche absolument toutes les catégories sociales, mais aujourd'hui, il y a vraiment une fracture. Vous avez les ménages les plus aisés, je vais y arriver, qui continuent à consommer, mais la middle class aux États-Unis, eh bien, consomme moins. Et ça, évidemment, ça a un impact sur les marges. On voit que les Américains, c'est ce qu'on craignait, qui, eux, dépensent plus à la pompe parce que les prix de l'essence ont progressé aux États-Unis, eh bien, dépensent un petit peu moins chez Walmart. Donc, Walmart est obligé de réduire ses marges et ils expliquent clairement qu'ils ont absorbé une grande partie de la hausse des coûts énergétiques et du carburant. Donc, les marges sont en train de baisser et on est dans une situation où le consommateur américain consomme toujours, mais de manière un peu différente.
Et Walmart, du coup, sanctionné, hein, obligé de faire des efforts, effectivement, pour garder les consommateurs. Walmart perd 5% là, à l'ouverture de Wall Street après sa publication. Du coup, Wall Street, pas terrible. C'est l'ouverture après 3 minutes de cotation. Que font les indices, là, Antoine?
Ben, c'est plutôt en baisse. On est à l'unisson de la tendance sur les marchés européens. Moins 0,49% pour le Nasdaq, moins 0,47% pour le Dow Jones, moins 0,45% pour le S&P 500. La volatilité qui remonte un petit peu, mais enfin qui reste relativement modérée à 17,7%. Le CAC 40 lui baisse de 0,6% à 8068.
On voulait vraiment ouvrir sur les consommateurs américains parce que pour le reste, c'est que de la tech, la tuerie américaine du jour. Alors on plonge ensemble. D'abord la publication d'Nvidia, John. C'était hier soir, superbe publication. Le titre Nvidia est en petite hausse là, l'ouverture, plus 0,5%.
Extraordinaire, hein, y a pas d'autre mot. Hein, ils écrasent encore les attentes avec un chiffre d'affaires trimestriel, pas annuel, trimestriel de près de 82 milliards de dollars. C'est plus 85% sur une année. Ils ont des revenus des data centers qui sont environ de 75 milliards de dollars. C'est plus 92% par rapport à l'année passée. Et surtout, un free cash flow colossal de près de 50 milliards de dollars en un trimestre. Donc, la société est en train de devenir progressivement une des plus puissantes machines à cash de toute l'histoire technologique. Il y a un point qui reste encore plus impressionnant et on en a parlé hier, c'est les fameuses marges. Eh bien, ils maintiennent leur marge à environ 75% pour la marge brute, malgré tous les coûts qui sont liés à la nouvelle architecture Blackwell et puis à l'explosion de la demande mondiale des puces d'intelligence artificielle. Perspective aussi extrêmement solide avec environ 91 milliards de dollars de revenus attendus pour le trimestre en cours, c'est-à-dire le deuxième trimestre, des rachats d'actions, 80 milliards de dollars et aussi un dividende qui est remonté. Le petit bémol, il y en a un, c'est les stocks qui sont en train de remonter et normalement, historiquement, lorsque les stocks remontent, c'est un signal de prudence dans les semi-conducteurs. Alors, Nvidia l'explique, parce qu'on lui pose la question, et ils disent non, c'est pour répondre à la demande future, c'est pour ça qu'on est en train de faire des stocks. Mais on est en train de valider avec les résultats de Nvidia, qui est la dernière grande société tech à publier sur ce premier trimestre, qu'on n'est définitivement pas dans une bulle de l'AI, mais dans quelque chose qui est palpable, j'allais dire.
Ce titre Nvidia gagne même 1,5% là, à la hausse. Ça n'empêche pas le Nasdaq de reculer. Il y a deux ans encore, c'était Nvidia qui faisait la loi. On voit qu'il est le plus seul sur le Nasdaq, puisque alors qu'Nvidia gagne du terrain aujourd'hui, au contraire, le Nasdaq recule de 0,38%. Et alors, on regardait la performance d'Nvidia sur 10 ans. Le titre sur 10 ans a pris 20 000%. Le titre sur 10 ans a pris 20 000%. Voilà. Wall Street est en petite baisse. On attend bientôt SpaceX qui va aborder les marchés, aussi accoster sur la rive des marchés actions parce que ça y est, SpaceX entre dans le dur. Ils ont déposé SpaceX hier leur projet d'IPO auprès de la SEC. Est-ce qu'il y a des surprises dans le format que prévoit SpaceX?
Oui, alors on va pas revenir sur la valorisation entre 1500 et 2000 milliards de dollars. Le ticker, ce sera SPCX, mais il y a des surprises. La première surprise, c'est que SpaceX reste encore massivement déficitaire, malgré son statut de géant mondial. Ils ont, en 2025, environ 19 milliards de revenus, pour près de 5 milliards de pertes net. La deuxième surprise, c'est que le véritable moteur du groupe, c'est pas les fusées, mais c'est Starlink. L'activité Internet satellitaire génère aujourd'hui plus de 11 milliards de dollars de revenus annuels avec 10 millions d'abonnés dans plus de 160 pays, donc c'est absolument extraordinaire. Et on a, alors ça c'est pour nous faire rêver, vous savez que Elon Musk veut absolument nous faire rêver, il nous démontre que SpaceX n'est pas simplement une société spatiale, mais c'est une énorme plateforme technologique qui combine les satellites, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, le cloud spatial et puis la puissance de calcul. Et même si vous regardez le prospectus que j'ai lu en partie, eh bien, il est explicitement nommé qu'il y a la création d'un marché de 1000 milliards de dollars sur la Lune, sur Mars et au-delà. C'est marqué. Et donc, on imagine que c'est vraiment la conquête spatiale, ce dont les Américains et puis nous aussi en Europe, dont on rêve, mais effectivement, aujourd'hui, ça écrase tout, mais c'est pas pour ça qu'on sait exactement si la société sera bien valorisée ou pas, parce que il y a tellement de choses dedans et aussi que ce soit l'internet, on en a parlé, l'intelligence artificielle, les satellites, etc. Mais très difficile de dire aujourd'hui s'il faut acheter l'IPO le 12 juin, si la date est officiellement le 12 juin, parce que c'est difficile de comparer cette entreprise avec une autre.
Oui, mais on voit que effectivement, ce sont des pertes encore aujourd'hui SpaceX au premier trimestre, des pertes de 4 millions de dollars. Alors un auditeur Max nous a écrit sur le Félix BFM Bourse en nous disant il n'y aura pas de bénéfice par action puisque ce sont des pertes par action qui attendent les investisseurs. Et il nous dit, Max, SpaceX qui perd de l'argent, ce titre va attirer tous les pigeons. Grâce à SpaceX, le pigeon apprendra à voler dans l'espace. C'est une façon de dire, il faut éviter, enfin, on a des doutes, on ne sait pas, peut-être qu'il faut y aller dans cette fusée SpaceX en bourse, mais on voit qu'il n'y a pas de bénéfice. Du coup, est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire partie de ceux que cet auditeur qualifie de pigeons en l'occurrence, John?
Non, alors je n'irai pas jusqu'à là. Vous savez que ces entreprises, quelles qu'elles soient, ils investissent massivement dans Starlink, dans les infrastructures d'intelligence artificielle, dans les data centers, et puis le développement extrêmement coûteux de Starship. Donc, en fait, en achetant SpaceX, on parie sur l'avenir. Alors, avenir qui est 11 ou pas, mais on parie sur l'avenir. Donc évidemment, au début, ce sera déficitaire, mais on est dans une, et je le disais avant, une entreprise qu'il est difficile de comparer parce que elle inclut absolument tout. Et c'était le rêve hein, de Elon Musk de dire, bah, on aura un peu des réseaux sociaux, on aura de l'intelligence artificielle, on aura des data centers dans l'espace, et on aura tout ça qui sera vraiment et véritablement sous une marque, c'est SpaceX. Donc, effectivement, alors sur le court terme, on est au courant hein, que ça perd de l'argent, donc c'est pas une surprise, mais sur le long terme, je suis pas persuadé qu'il faille aller à l'encontre d'Elon Musk.
Antoine, bah, souvenez-vous Tesla, hein. Tesla, pendant la majeure partie de son histoire, a fait des bénéfices un petit peu par accident. Ça n'a pas empêché que c'est devenu une boîte super profitable de manière générale. En 10 ans, elle a gagné 2800% en bourse. Donc oui, il y a un petit côté modèle spécifique Elon Musk, on va dire, mais on investit sur l'avenir d'une manière générale.
Et sur Elon Musk, hein, parce que les actionnaires doivent le savoir, Elon Musk sera tout puissant, il est déjà dans SpaceX, il sera même l'un des très rares, voire le seul grand patron de Wall Street, irrévocable par les actionnaires, John.
Ouais, clairement. Mais je répète, hein, c'est quelque chose qui est pas caché. Hein. Oh. Alors, ça va lui donner. Il va y avoir une classe, ce qu'on appelle une classe B, qui donne jusqu'à 10 droits de vote par action spéciale. Donc on le sait, Musk va vraiment pouvoir imposer seul les grandes décisions stratégiques, les nominations au conseil d'administration et l'orientation du groupe pendant de nombreuses années. Bon. Mais donc, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va acheter l'action en bourse, eh bien, c'est quelque chose que l'on sait. On va faire confiance d'une certaine manière à l'entreprise, mais surtout à un homme. Donc évidemment, si Elon Musk, à un moment, ce n'est pas du tout le cas, mais devait démissionner de son poste, eh bien, potentiellement, ici, eh bien, ce serait une autre histoire. Donc c'est vraiment un ego ou quelque chose qui entoure vraiment un homme qui a une vision, comme on l'a dit, à 360 degrés.
SpaceX à suivre donc sans doute à partir de mi-juin en bourse, mais à l'automne suivra OpenAI. On a de plus en plus d'infos, même des infos de plus en plus précises sur l'intro en bourse à venir d'OpenAI. Alors comme par hasard, ces infos sortent au moment où SpaceX dépose son dossier. C'est peut-être une façon pour OpenAI de faire savoir aux investisseurs qu'il ne faudrait pas tout mettre dans SpaceX parce que ce sera eux les suivants. Qu'est-ce qu'on sait de cette intro à venir d'OpenAI ?
Alors normalement, elle arriverait en automne. Alors on a rarement des dates hein, précises. Alors ce qu'on sait, c'est que vous savez qu'il y avait un procès hein, entre Elon Musk, on y revient, et puis le patron d'OpenAI, et les investisseurs aujourd'hui considèrent que les incertitudes juridiques sont plus ou moins levées, donc on peut aller à l'IPO. Alors on estime une valorisation comprise entre 300 et 500 milliards de dollars. Vous allez me dire, c'est peu par rapport à SpaceX, mais c'est absolument énorme. C'est une des plus grandes introductions en bourse de l'histoire de Wall Street. Et puis, évidemment, les marchés regardent surtout la croissance totalement explosive de revenus liés à ChatGPT et aux agents professionnels de l'intelligence artificielle. Donc, évidemment, la question est puis c'est peut-être le sujet principal, hein, c'est la structure de gouvernance. Vous avez beaucoup d'investisseurs qui veulent savoir si Sam Altman conservera un contrôle proche de celui d'Elon Musk avec ce qui s'est passé dans SpaceX dont on vient de parler. Et donc, il y a de nombreuses zones d'ombre, mais effectivement, deuxième société, on attend Anthropic, hein, les dates approximatives, mais effectivement, cette année, il faut parier sur SpaceX, OpenAI et Anthropic.
Dans l'IA, en tout cas, les licenciements continuent. On a eu des annonces de Meta, celle d'Intuit aussi. Intuit, le titre est en repli de 20% en ce moment à Wall Street. Intuit qui compte supprimer une partie de ses effectifs pour investir davantage dans l'IA. Wall Street a ouvert il y a maintenant 13 minutes, John. Et l'énergie, c'est l'autre grand défi. Ben, on apprend que les nouvelles installations de stockage d'énergie aux États-Unis atteignent un record au premier trimestre.
Un record historique avec 9,7 gigawattheures de nouvelles capacités installées. Alors, pour être très précis, c'est une hausse de 32% sur un an. Donc, ça confirme clairement que le stockage électrique devient progressivement l'un des piliers stratégiques de la transition énergétique, mais aussi de la révolution de l'intelligence artificielle. On en parle très souvent ensemble. Les demandes explosent principalement à cause des tensions sur les data centers. Et donc, effectivement, ici, on voit qu'il ne faut pas simplement, si vous voulez parier, si vous voulez investir sur l'intelligence artificielle, il ne faut pas simplement aller sur les puces, il ne faut pas aller sur le cloud, il faut aller sur toute une infrastructure dont on parlait hier, et elle passe évidemment par l'énergie. C'est confirmé par l'Agence de l'énergie internationale avec ses nouvelles structures qui sont beaucoup plus grandes aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup plus de demandes.
Merci beaucoup John, avec nous régulièrement. John Plassard, Cité Gestion, Wall Street ouvre en baisse et le CAC 40 également, moins 0,5% à la Bourse de Paris. Notez que l'euro d'ailleurs recule face au dollar aujourd'hui. Bruxelles abaisse sa prévision croissance pour la zone euro, la prévision croissance pour cette année du fait du conflit au Moyen-Orient et de ses impacts. Bruxelles passe d'1,2% croissance à seulement 0,9 pour cette année. On reviendra sur la nouvelle prévision de Bruxelles, mais donc aujourd'hui l'euro recule assez nettement face au dollar. Alexandre Aizé nous rejoint, stratégiste indépendant. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
15h45, vous allez rendre votre verdict. Ce verdict que vous allez rendre, ce moment qu'on va vivre ensemble, est-ce que vous l'assumez ?
Je l'assume, Guillaume.
On vous écoute.
Écoutez, effectivement, on a l'impression potentiellement d'enfoncer des portes ouvertes, mais je pense qu'il faut encore insister sur le fait que quand on analyse les marchés, quand on, de manière globale, macroéconomique, ou quand on analyse les marchés au terme d'entreprise, l'IA est le facteur discriminant au-delà des enjeux géopolitiques actuels.
Oui. Parce qu'on se disait ces derniers jours, les taux, finalement, on revient à l'essentiel, les taux obligataires qui montent, ça va remettre un peu d'ordre dans les marchés et remettre l'église ou la mairie au milieu du village. Non, ça reste l'IA, l'ultime frontière, le vrai baromètre des marchés aujourd'hui, ça reste l'IA. Finalement, plus que les taux, Alexandre ?
On voit que les taux n'ont pas beaucoup d'importance, en tout cas dans le secteur qui est celui au global de l'intelligence artificielle, hein, sous toutes ses formes et sur l'ensemble de la chaîne de production, parce que les investissements ne ralentissent pas, c'est-à-dire que normalement, une hausse des taux devrait faire ralentir ces investissements ou porter des doutes. On a eu certains doutes en début d'année sur les dettes massives qui allaient être émises par les hyperscalers notamment, mais en fait, on voit que ce mouvement est clairement irrépressible.
Okay. Oui. Et l'IA continue d'avancer, quoi.
L'IA continue d'avancer, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est en train, évidemment, de capter une masse d'investissement global très importante, donc au détriment peut-être d'autres entreprises. Et puis, même quand on regarde, et là, c'est pour ça que je voulais revenir sur ce sujet-là, c'est qu'à dire, même à l'intérieur même des secteurs, parce qu'on parle beaucoup de secteurs qui sont disruptifs. On a les résultats d'Intuit, par exemple, qui effectivement est dans une position où l'IA est un véritable concurrent pour son business, mais à l'intérieur même des secteurs, prenons le secteur de la distribution, vous avez Walmart qui publie aujourd'hui. Walmart évidemment qui a un peu déçu, mais les résultats sont très bons, et Walmart a rapidement été dans le digital puis dans l'intelligence artificielle et crée de la valeur sur l'ensemble de la chaîne, et pourtant c'était un secteur où les marges étaient restées assez faibles. Et bien là, l'intelligence artificielle va lui permettre effectivement d'optimiser à la fois la logistique et à la fois l'attrait pour ses clients.
C'est l'IA qui a transfiguré Walmart en bourse depuis début d'année, c'est un carton.
Bien sûr. Et à côté, vous avez des concurrents du même secteur, hein, prenant Kohl's, Macy's, qui eux sont en retard et ont des performances opérationnelles qui sont extrêmement décevantes, et le retard va être extrêmement difficile pour ces entreprises. Encore une fois, d'un même secteur, à rattraper.
Oui, oui. Donc, ça reste la matrice, effectivement. Et dans quelques jours, SpaceX qui va arriver. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les investisseurs ? Je vous pose la question parce que SpaceX, 15 jours à peine après son introduction, fera partie du Nasdaq 100. Oui. SpaceX sera dans le Nasdaq 100 très, très rapidement. Ça veut dire que beaucoup d'ETF auront du SpaceX. C'est-à-dire que des gens qui auront choisi de ne pas investir dans SpaceX en disant Elon Musk, j'y crois pas trop, Mars, c'est pas mon truc et tout, auront quand même du SpaceX dans leurs ETF, quoi. Est-ce que, de ce point de vue, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les investisseurs globaux ?
Alors, tout est fait pour que l'IPO fonctionne bien et soit une IPO historique, hein, parce que finalement, SpaceX, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est à peu près, ça va être entre 1700, 1800 milliards de capitalisation, mais en fait, sur les marchés, on aura 75 milliards de flottants, donc c'est assez peu, mais dans les indices, et notamment Nasdaq, cela va représenter, avec le calcul que fait la société, à peu près 5 à 6% de l'indice. Donc, les ETF, pendant quelques semaines, quelques mois, vont se ruer effectivement sur SpaceX, oui, de manière passive. On voit bien l'avantage ou le désavantage de la gestion passive par rapport à la gestion active. C'est-à-dire que là, nous n'aurons pas le choix, et on peut avoir des déconvenus sur à la fois d'autres valeurs, et même un peu plus tard, à quelques mois, puisque il y a certains scénarios qui se mettent en place où effectivement vous allez avoir un espèce de schéma où vous allez avoir une masse qui va se concentrer sur SpaceX et faire monter potentiellement le Nasdaq et SpaceX, et puis au bout de quelques mois vous aurez ceux qui sont loqués et puis les insiders qui revendront et qui mettront potentiellement de la liquidité sur le système, et on pourra avoir un retour assez déplorable de l'indice. Donc ça, c'est un scénario un peu catastrophe, mais on voit bien que cet équilibre va être complexe, en tout cas, et on a d'autres IPO assez fortes qui vont se mettre en place. Juste, je rappelle que une société comme SpaceX de 1700, 1800 milliards de capitalisation boursière, on a déjà eu ça, on a eu Aramco. Mais Aramco, le flottant, c'était 25 milliards seulement. Là, c'est 75 milliards. Donc, ça va effectivement créer pas mal de dissensions. Ça sera peut-être, SpaceX sera au Nasdaq 100 plus important que Amazon ou Meta, par exemple, en termes de pourcentage. Et là, on voit que on va avoir une déformation complète des ETF, des coûts certainement de transformation des ETF, parce que vous changez pas 6%, 5-6% d'un coût dans l'ETF. Donc, on risque d'avoir de la volatilité, du bruit très important.
Oui, et du coup, alors pour ceux qui sont quand même convaincus par la thématique spatiale, et pourquoi pas SpaceX, hein, quand même, ça reste un génie, Elon Musk. Voilà, quitte à y investir, il y aura SpaceX, mais en attendant, il y a quoi? Il y a d'autres valeurs, enfin, il y a d'autres idées pour investir dans l'espace, parce que la thématique, elle a un énorme potentiel devant elle. Il y aura la militarisation de l'espace, la miniaturisation de l'espace, etc., etc. Tout ça, c'est pas que lié à SpaceX. Du coup, comment on fait pour investir la thématique au-delà de SpaceX?
Non, mais c'est vrai qu'il y a, bon, alors de manière classique, il y a aussi les semi-conducteurs. Hein. Dans une précédente émission, j'avais parlé notamment les data centers dans l'espace, qui sera le niveau 3, où on aura beaucoup d'avantages en termes de refroidissement ou de calcul de l'énergie. Il y a une société aux États-Unis qui est bien plus petite, Rocket Lab, qui est un peu un mini SpaceX et qu'on a beaucoup profité. Les lanceurs de satellites aussi, Eutelsat, même si on est en restructuration. Mais SpaceX, c'est pas que c'est du spatial. On l'a rappelé tout à l'heure, c'est une entreprise télécom globale, à la fois effectivement sur la défense, l'intelligence artificielle et puis Starlink effectivement qui va prendre le pas. Donc on a, et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est les données qui sont mises en avant, c'est-à-dire qu'on a à peu près 2500 satellites par an dans les projections, ça va être 10 000 cette année, donc il y a une accélération extrêmement
10 000 satellites lancés chaque année.
Oui, lancés chaque année. Donc c'est clairement l'objectif de SpaceX, et ça va effectivement, on change complètement et c'est à peu près le seul acteur qui sera à cette.
Alors on va en attendant l'exponentiel des lancements de satellites, on va faire une petite addition. SpaceX plus une autre introduction attendue, Anthropic plus OpenAI aussi attendue cette année. Ça fait trois grosses intros. Ces trois intros ajouteront à la capitalisation mondiale l'équivalent de la bourse de Paris. Voilà. Juste ça, hein.
En capitalisation, pas en flottant, mais en valorisation. Et c'est vrai que encore une fois, le risque, mais on le voit aussi sur le crédit, hein, que ça soit sur les actions et le crédit, c'est que les grandes actions américaines et notamment ces IPO sur les marchés phagocytent la liquidité mondiale au détriment effectivement de l'Europe.
Il y a plein de véhicules pour investir dans l'espace, et puis il y a les véhicules tout court. On peut y investir d'ailleurs dedans. On va revenir dans cette thématique transport, mais beaucoup plus terrestre, Antoine, parce qu'il y a un groupe aujourd'hui qui joue une partie de son avenir.
Bah, c'est Stellantis, hein, qui recule de 5,4%. On est à 6,08 €. On a signé un nouveau plus bas historique tout à l'heure, sous les 6 euros. On était à 5,99 €. La dernière fois qu'on était plus bas, ça s'appelait encore Peugeot Citroën. Donc bon, réduction de 20% des capacités en Europe. 20%. On espère que ça va délivrer cet Investors Day, parce que au bout, on voit pas grand-chose à part peut-être un joli rêve de Deutsche Electric. Hein.
C'est exactement ça. Il fallait quand même arrêter la dégradation. Il fallait faire quelque chose de toute manière. Sinon, il y avait la tendance. Elle était claire. Je crois qu'il y a un plan à 60 milliards. On voit bien que l'Europe n'est plus le sujet. On a quand même l'impression que l'automobile européenne a perdu la guerre contre l'électrique chinois. Je veux dire, et ça, c'est difficilement remédiable. Mm-hmm. Il faut quand même souligner que l'Investor Day fait à Détroit. Hein, donc Stellantis organise ces éléments de langage pour les États-Unis, où potentiellement les marges sont plus importantes. Le nouveau patron était CIO de Jeep, donc il connaît bien ce marché, et il fallait faire quelque chose. Au-delà de Stellantis, ce qui est assez, à mon avis, intéressant, c'est savoir comment toutes ces entreprises automobiles européennes vont se vont essayer de se transformer. Oui. Et c'est vrai que Mercedes a commencé à en parler. L'industrie de la défense peut être potentiellement une activité qui peut redonner un peu des lettres d'or, alors ça prendra du temps, à l'industrie automobile. Et je pense que la souveraineté, la défense peut être un véritable enjeu pour ce secteur dans les années à venir.
On y reviendra à Stellantis, donc, qui dévoile aujourd'hui son plan d'action, son plan stratégique, et qui sabre dans ses capacités de production en Europe de plus de 800 000 unités supprimées.
C'est énorme, ouais, et encore une fois, sur 35 milliards dédiés aux marques, il y a plus de 60% qui va aux États-Unis, donc on voit bien là où veut se focaliser Stellantis.
Mais c'est pas comme ça qu'on va relancer la croissance européenne. D'ailleurs, on a les indices PMI en Europe qui sont publiés aujourd'hui. Ils sont à un plus bas de, alors pour la France de 2020, le PMI des services de la France retombe au niveau quasi Covid, quoi. On est en contraction très nette.
Disons que, en fait, ce qui se passe, c'est que l'industrie s'en sort grâce au plan de relance, à la souveraineté, etc. Mais on voit bien que le consommateur est en train de plier face aux hausses de coûts, et le tourisme est en berne. On a l'indicateur PMI service et démontre encore une fois l'impact très important des événements en Iran.
Le PMI service français sous les 43, au mois de mai, sous les 43, 42,9, c'est un niveau qu'on n'avait plus vu depuis 2020, l'année du Covid.
Voilà. Oui, on a vu les nouveaux calculs, effectivement, de la Commission européenne pour la croissance économique.
Et la baisse,
mais ça n'est peut-être qu'un début si le conflit perdurait.
Merci beaucoup Alexandre Rézé de nous avoir accompagné aujourd'hui, stratégiste indépendant. Et alors ce conflit justement durera-t-il encore? Personne n'a la réponse, mais d'après Reuters, le guide suprême iranien dit que jamais l'uranium enrichi ne quittera le territoire iranien, alors qu'il y avait des rumeurs qui fuitaient depuis hier selon lesquelles au contraire l'Iran accepterait qu'une partie de cet uranium enrichi sorte du territoire. Ben là, d'après Reuters, le guide suprême aurait mis son veto. Ce qui pourrait fâcher à nouveau Donald Trump, on va suivre tout ça. En tout cas, pour l'instant, l'impasse perdure et se prolonge. Le CAC 40 en petite baisse de 0,1%. Wall Street en petite baisse aussi, moins 0,3%.
BFM Bourse, Culture Bourse.
C'est chaque jour Culture Bourse. N'ayez plus peur de dire qui vous êtes. Vos questions, celles que vous nous envoyez, sont toutes légitimes et sont toutes de bonnes questions. Gwendal Dobrechal et ses experts, chaque jour, vous lisent et surtout vous répondent. Bonjour Gwendal.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et oui, on vous attend, on compte sur vous dans Culture Bourse. Alors pour nous écrire, toujours les deux mêmes options. Soit vous nous écrivez directement à l'adresse mail bfmbourse@bfmbusiness.fr ou en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran.
Et donc, alors que Stellantis prévoit effectivement de nouveaux formats d'investissement, mais aussi de sabrer un certain nombre de coûts, notamment ici en Europe, la question de l'avenir du secteur automobile reste pleine et entière. Certains constructeurs misent sur le secteur de la défense pour continuer de se développer, Gwendal.
Oui, effectivement, vous en avez parlé avec Alexandre Rézé juste avant. Donc, il y a Stellantis, il y a également du côté de l'Allemagne, Mercedes ou encore Volkswagen qui envisagent de se lancer dans le secteur de la défense. Mais en France, on a Renault. Renault qui accélère dans les drones militaires. Elle a déjà une usine en fabrication au Mans. Et Alexis veut savoir s'il y a encore de la place pour l'industrie automobile dans le secteur de la défense, quand on sait que c'est assez verrouillé avec des géants comme Dassault ou Thales. Alors pour lui répondre, on reçoit François Chollet, président de Montségur Finance. Bonjour François, merci d'être avec nous.
Bonjour François.
Ce virage de Renault dans la défense, comment vous le percevez ?
Assez opportuniste, et c'est vrai que le sujet est intéressant, il attire la défense. Il y a eu un vote avant-hier d'une rallonge budgétaire massive au Parlement français. C'est 436 milliards d'euros de dépenses entre 2024 et 2030, et c'est un budget qui est, pour 2030, estimé à 75 milliards d'euros par an, 2,5% du PIB français. Donc ça veut dire que le gâteau est en train de grossir et évidemment attire de nombreux industriels. Alors c'est pas la première fois, il y a des industriels de tout secteur, et notamment dans l'automobile, on l'a vu avec Daimler récemment, qui ont eu des activités dans la défense. D'ailleurs Renault, il faut se souvenir qu'il détenait le groupe Renault Truck Défense, qui était devenu Arcus, qui fournissait quasiment 90% des véhicules à roues de l'armée française. Ça a été revendu à Volvo par la suite. Mais vous voyez, c'était un chiffre d'affaires à l'époque d'environ 1 milliard d'euros. Si on regarde ce qui est en train d'être annoncé avec les contrats de drones pour notamment Renault, et on parle effectivement des usines de production actuelles du Mans ou de Cléon pour réaliser cette production, on parle de contrats à 1 milliard d'euros sur 10 ans, c'est 100 milliards d'euros par an. Alors certes, c'est beaucoup mieux margé que l'automobile, on parle de marges qui seront entre 3 ou 4 fois supérieures à celle de l'automobile, mais ça reste très limité, 1 milliard d'euros sur 10 ans, avec 57 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel pour le groupe Renault, ce n'est pas ça qui permettra de sortir le titre du problème de valorisation qui est le sien actuellement, mais qui est aussi celui de l'ensemble du secteur des constructeurs automobiles européens. Je crois qu'il faut, pour Renault, plutôt miser sur les nouveaux modèles, sur de nouveaux partenariats industriels, ou même peut-être encore sur la vente du portefeuille de titres de Nissan. Renault détient encore 15% du capital de Nissan. Ce serait plutôt ça, les meilleurs catalyseurs, le meilleur moyen de rassurer les investisseurs et de retrouver une valorisation boursière plus correcte pour le groupe.
François, vous nous accompagnez tout au long de BFM Bourse. Dans un instant, d'ailleurs, on parcourra les gagnants, les perdants de cette séance. Mais Gwendal, en plus des réponses aux questions des auditeurs, Culture Bourse, c'est une façon de prévoir l'avenir, en tout cas de lire les courbes de l'avenir grâce au portefeuille trading BFM.
Et on lit les courbes de l'avenir avec notre cher Alexandre Tixé, c'est lui l'analyste de ce portefeuille trading. Bonjour Alexandre.
Bonjour Gwendal, bonjour à tous.
Alors on le rappelle, pour vous abonner, il vous suffit là aussi de flasher le QR code qui va apparaître sur vos écrans dans un instant. Alors Alexandre, statu quo sur l'indice CAC 40, après un beau rebond hier, il retombe aujourd'hui autour des 8000 points. Comment vous percevez ces timides oscillations sur le CAC 40 d'un point de vue technique ?
Oui, effectivement, c'est le statu quo, hein. Puis même hier, avec la hausse dont vous parliez, elle n'était pas accompagnée non plus de volume assez dingue et d'une fédération de secteurs, comme j'aime à le dire. Donc vraiment, attention toujours à ce seuil des 8000 points, psychologique, symbolique. Si on passe en dessous dans une volatilité importante, attention, là, on pourrait avoir des dégagements accélérés. Attention à pas se laisser endormir là-dessus. Sur l'allocation du portefeuille, on garde nos titres orientés énergie, hein, je rappelle Total et Électricité de Strasbourg, et un autre titre sur un secteur peu corrélé à la situation géopolitique. Donc le niveau de liquidité dispo est de 40%.
Côté valeur, justement, est-ce qu'il y en a une qui monte en puissance et qui commence à vous titiller là pour la suite ?
Ah, qui me titille, qui me fait de l'œil, c'est exactement ça, c'est Coface, hein, je rappelle, un spécialiste de l'assurance crédit, assurance contre les impayés, recouvrement de factures. C'est un titre très résilient, hein, récemment, et qui est déjà repassé au-dessus de ses niveaux d'avant-crise géopolitique. D'un point de vue technique, là on a assisté à une formation en triple creux, c'était tout au long du mois de mars. Des gaps de poursuite en veux-tu, en voilà, tout au long du mois d'avril. Et puis, voilà, des volumes acheteurs forts, ça c'est très récent, c'est depuis le 6 mai. Donc clairement, je me garde cette opportunité. Et bien sûr, je l'intégrerai en portefeuille dès que j'ai un prix d'entrée un petit peu plus intéressant. Et puis, les abonnés au service seront alertés en temps réel.
On peut devenir abonné en flashant ce qu'annonce QR code qui apparaît à l'écran. Merci Alexandre Tixier, ce portefeuille trading. Et à vous, Gwendal. Rendez-vous demain pour Culture ETF le vendredi.
Exactement.
Et ouais, demain, on vous apportera des idées d'ETF juste avant le week-end pour vous aider à avancer dans vos réflexions pendant le week-end, justement, comment investir sur les marchés. On peut le faire aussi directement à travers des valeurs, et on vous présentera dans un instant avec François Chollet ces valeurs à fort potentiel qui guettent la bourse. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.